au 1047 Outaouais. Vous écoutez l'Outaouais maintenant. L'Outaouais maintenant. Avec Louis-Philippe Brûlé.
OK, la chronique en droit du travail avec maître Philippe Coderre. Il y a des semaines où Philippe cherche des sujets. Cette semaine, il y en a comme trop. Alors, on va se faire une petite chronique méli-mélo. Salut, Philippe!
Salut, LP!
Il y a eu plusieurs cas qui ont fait la manchette cette semaine. Je veux commencer par Daniel Pilon, un comptable, un CPA, sanctionné par l'Ordre professionnel des comptables professionnels agréés pour avoir diffusé des vidéos complotistes. Peut-être nous rappeler les faits de l'histoire, Philippe.
Oui, mais d'abord, pourquoi qu'on parle de ça aujourd'hui? Là, c'est parce que, tu sais, cet automne, on a parlé beaucoup de liberté d'expression dans le cadre du droit du travail. Et là, cette semaine, on a eu plein de cas vraiment qui sont liés à la liberté d'expression. Ce qui est arrivé à M. Pilon, c'est qu'au mois d'avril, il a commencé à faire des espèces de vidéos où il faisait des propos complotistes. Donc, parmi les propos qu'il soulevait, par exemple, Bill Gates était à la charge d'un complot mondial. On l'a entendu souvent, celle-là. Oui. La Chine a créé le vaccin. Les futurs vaccins vont contenir des puces qui vont être activées par le 5G. Et là, il y a quelqu'un du public qui écoutait la vidéo qui a fait une plainte à l'ordre en disant que c'est un comptable, c'est un CPA, puis il déroge à son code de déontologie. M. Pilon a démissionné de son titre de CPA tout de suite après. Mais le dossier a suivi son cours. Et la semaine dernière, l'Ordre des professionnels est venu sanctionner les propos de M. Pilon. Puis pourquoi c'est intéressant? C'est que dans le cadre des relations de travail, quand on est un professionnel, ça vient illustrer un bon exemple de limite à la liberté d'expression en droit québécois. Donc, si vous êtes avocat, notaire, comptable, infirmière, médecin, généralement, votre code de déontologie va vous demander d'aller dans la modération dans ce que vous dites. Et ici, ce qu'on vient reprocher à monsieur, c'est d'avoir véhiculé des propos qui étaient faux ou qui n'avaient pas vérifié et que ça portait honneur à sa profession. Donc, c'est pour ça qu'il a été sanctionné. En fait, la sanction n'est pas connue encore.
C'est ça que j'allais te demander, parce que lui a renoncé à son titre avant que la sanction arrive. Est-ce que la sanction aurait été de lui enlever son titre? On va le savoir quand même éventuellement, je pense, Philippe, si je comprends bien.
Exactement. On va le savoir quand même éventuellement. Ce qui est intéressant dans cette décision-là, c'est les critères qui ont été utilisés par le Conseil de discipline, parce que ça peut être intéressant. Il y a plusieurs avocats qui font des chroniques, moi d'ailleurs, et ce qu'on vient de dire ici, c'est que pour déterminer si c'est conforme ou pas, il faut qu'il y ait un lien avec la profession. Donc lui, quand il faisait sa vidéo, c'était écrit « Daniel Pilon, CPA ». Donc ça ne l'aidait pas. Et ensuite, il faut que les propos soient faits de bonne foi. Il faut que la manière avec laquelle ils ont été formulés soit adéquate. Et il faut regarder aussi la réaction du public. Donc, qu'est-ce que ça a suscité au niveau du public? Donc, c'est important d'avoir ça en tête si vous êtes un employé, avocat ou peu importe, que vous n'avez pas le même droit à la liberté d'expression, par exemple, que quelqu'un du public.
Oui, ça ne vous empêche pas de vous poser des questions sur les mesures qui sont en place, mais c'est dans la façon de le faire, c'est de ne pas inciter, exemple, à la désobéissance civile. Si lui avait travaillé pour une firme de comptables, là, je ne sais pas s'il était indépendant à son compte, là, mais là, il perd son titre. Dans ce cas-là, il perd sa job, Philippe?
Oui, effectivement, ça dépend toujours de combien de temps la radiation, là, parce que c'est bien rare des radiations à vie, là, on s'entend. Mais quelqu'un, par exemple, un avocat qui serait dans cette situation-là et qui serait radié pour 3 mois, ben le bureau, certainement, ne le paiera pas pour 3 mois. Et là, ça dépend toujours. On a parlé des contrats de travail récemment. Ça peut être une clause dans un contrat de travail. Donc, vous devez maintenir votre titre en tout temps, sinon vous perdez votre job. Et un bureau d'avocat pourrait dire, ben moi, je veux pas d'avocats qui sont radiés pour quelque raison que ce soit. Donc, effectivement, ça pourrait conduire à une perte d'emploi.
Oui, mais on voit, entre autres, souvent dans la police, quand il y a un problème, on fait faire du travail administratif aux policiers. Il ne va plus sur le terrain avec son uniforme. Ça peut être une possibilité aussi, là, si c'est un employé là qui est quand même utile à l'entreprise, qui n'a jamais causé de problème, ça peut être une façon de régler la situation.
Exact, il n'y a rien d'automatique. L'employeur pourrait décider ça, effectivement.
Bon, le cas qui a fait le plus jaser dans la dernière semaine, c'est arrivé samedi, Place Rosemère, manifestation anti-masque. Ça dansait là, pour un petit peu se moquer là, des règles sanitaires en place. Et l'organisatrice de tout ça, Myriam Ouimet, c'est une agente de la paix là, pour Service correctionnel du Québec, là, une gardienne de prison. Et aujourd'hui, Philippe, beaucoup de monde réclame des sanctions disciplinaires, même son congédiement. T'en penses quoi?
Ben ça revient, on a fait une chronique, je sais pas si souviens, à l'automne, sur l'attaché de presse là, d'un député qui avait été congédié pour avoir émis des propos complotistes. Puis ce que je disais dans cette chronique-là, c'est que dans ce cas-là précisément, son message à cet employé-là allait à l'encontre de ce que son employeur véhiculait. Donc, il portait atteinte aux intérêts de l'entreprise et à la réputation, finalement, de son employeur. Alors, c'est un peu le même cas ici. Normalement, oui, on a une vie privée, comme on dit tout le temps, sauf que si nos actions dans la vie privée viennent avoir une incidence sur la réputation de l'employeur, effectivement, ça peut mener à des sanctions. Maintenant, là, pour ceux qui demandent le congédiement de la personne, ça, je vous dirais, bien, j'espère que l'employeur va être prudent, parce qu'on peut pas y aller automatiquement chaque fois qu'il y a un tollé dans les médias, congédier tout le monde là, qui en font les frais. Il faut absolument regarder c'est quoi le dossier disciplinaire de la personne, c'est quoi le contexte, est-ce qu'elle a émis des remords, est-ce qu'elle va le recommencer, etc.
Mais il y a une question de crédibilité, Philippe, aussi. T'sais, elle retourne à son centre de détention, puis est en train de dire à certains détenus de respecter des règles. Les détenus, là, ils voient ce qui se passe dans les médias, là, puis ils vont dire, ben voyons donc, toi-même, tu ne respectes pas, toi-même, tu défies l'autorité, toi-même, tu fais de la désobéissance civile, alors tu es mal placé pour me dire quoi faire ici, là.
À 100% d'accord avec toi là-dessus. Donc, l'employeur, ce qu'il va devoir faire là-dedans, c'est d'abord déterminer s'il y a un lien avec le travail. Là, ici, il y en a un là, à cause de ses fonctions. Est-ce que c'est une condition essentielle de son contrat de travail? Selon ce qu'on lit des syndicats, les employés sont avisés de faire attention avec ce qu'ils disent publiquement. Et ensuite, il faut regarder justement, c'est quoi, est-ce que ça complique la gestion efficace de mon entreprise? Puis ça, c'est un des critères qu'on va utiliser c'est quand ça. Quelqu'un fait des inconduites.
C'est encore pire que l'image là, de l'employeur. Ben, là. C'est le fonctionnement oui, c'est de la shop, là.
Exactement. Donc, à ce moment-là, les employeurs sont justifiés de sévir. Maintenant, quelles sanctions on applique? C'est là que je dis aux gens, faites attention, il faut regarder le dossier disciplinaire de la madame. On ne peut pas commencer à dire elle est congédiée automatiquement. S'ils font ça, ben il va y avoir un grief, puis ça se peut qu'ils perdent au final. Donc, oui. L'important, c'est deux choses. Un, est-ce que je peux sanctionner oui ou non? La réponse dans ce cas-ci, ça pourrait être oui. Et par la suite, c'est quoi la sanction appropriée qui va lui donner une leçon? Et là, ça, c'est un autre débat selon le dossier de la dame en question.
Tout à fait. C'est un dossier de deux pieds d'épais avec déjà plein de sanctions. Ben peut-être que le congédiement est justifié. Sinon, elle pourrait aller en cours avec peut-être même un psychologue et dire, bon, j'étais dans une mauvaise passe, j'ai dérapé un petit peu, je suis repentante, j'aurais pas dû. Puis là, elle pourrait s'en tirer là, avec une sanction moins sévère. Il y a aussi, Philippe, ton ancien collègue, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui s'est dit victime de diffamation cette semaine de la part d'un professeur de l'Université Concordia. C'est un débat qui ramène à nouveau la question du droit à la liberté d'expression sur les réseaux sociaux, notamment de la part des enseignants.
Oui, effectivement, c'est Kyle Matthews, qui est le directeur général de l'Institut d'études sur les génocides et les droits de la personne, à l'Université Concordia. La semaine dernière, ce qui est arrivé, c'est que Paul a fait une entrevue dans laquelle il expliquait son projet de la souveraineté. Et M. Matthews a écrit sur Internet, là, sur Twitter, Paul Pot Plamondon, en réponse là, à l'entrevue. Et ça, il faut comprendre que Paul Pot, là, c'est un dictateur au Cambodge qui a fait des centaines de milliers de morts. Alors, Paul,
c'était pas un compliment.
Non, c'était pas un compliment. Il est allé dans les médias. Et il a prétendu que c'était de la diffamation. Puis pourquoi j'en parle aujourd'hui? C'est que j'ai bien aimé ici la réaction de l'employeur dans ce dossier-là. Tantôt, on vient juste de parler d'un cas où les gens veulent congédier la personne automatiquement. Ici, l'employeur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé à son professeur de s'excuser et il a assumé les gestes. Il s'est excusé au nom de son professeur également. Donc, l'université a présenté ses excuses et le dossier est fini là. Donc, un employeur n'est pas obligé chaque fois qu'il y a un tollé ou qu'un employé, finalement, a fait une mégarde dans ce qu'il publie, d'appliquer ce qu'on appelle la peine capitale en droit du travail, donc le congédiement. On peut aussi faire preuve de, on va prendre nos responsabilités, on présente des excuses et ça finit là. Et c'est ce que j'ai aimé dans ce dossier-là. J'ai trouvé que l'employeur a quand même bien géré cette situation-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça amène une autre limite au droit à la liberté d'expression. Donc, on a vu qu'on peut être limité par un ordre professionnel, on peut être limité par notre obligation de loyauté envers notre employeur, mais aussi il y a des limites civiles. La diffamation, c'est pas permis d'aucune façon. Est-ce que ça en était? Ça reste à voir. Mais c'est une limite qui est permise au niveau de la liberté d'expression.
Oui. Et d'ailleurs, si on sort un petit peu là, de ton domaine, le droit du travail comme tel, là, Avec tout ce qu'on voit, là, puis peu importe ce qu'on pense des complotistes en général, puis qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai là-dedans, le droit à la liberté d'expression, Philippe, est en pleine transformation présentement.
Oui, je dois avouer que je suis un peu préoccupé par où on s'en va à ce niveau-là. D'abord, il y a un gros problème au niveau de... On tente de mettre les gens dans des cases. Donc, justement, si je reprends l'exemple de Paul, Paul s'est fait reprocher parce que Paul a défendu la professeure de l'Université d'Ottawa. Il a aussi mis des opinions à l'effet que l'épisode de la petite vie devait demeurer là, sur les ondes. Et là, on lui dit, bon... t'es pour la liberté d'expression dans un cas, ben là, quand ça vient à quelqu'un qui fait une insulte, là, t'es plus pour la liberté d'expression.
C'est ça, t'es pour quand ça fait ton affaire, t'es contre quand ça fait plus ton affaire.
Ben ça, c'est un gros problème, à mon avis. On essaie toujours de mettre les gens dans des cases, et ça, ça fait des débats là, qui sont sans fin. Par exemple, quelqu'un qui est en faveur de bannir des mots à l'Université d'Ottawa pourrait trouver que le commentaire émis par un professeur, c'est pas de la diffamation, puis c'est correct. Donc, le premier enjeu de la liberté d'expression, c'est que la vie n'est pas blanc ou noir. On peut être dans le gris, on peut, dans certains dossiers, prendre position et dans d'autres, ne pas le prendre. Et le deuxième débat que j'ai, c'est au niveau de la sensibilité. Ça semble être le critère utilisé maintenant pour déterminer si la liberté d'expression est protégée ou pas. Donc, on a vu le Stephen Guilbeault, à tout le monde en parle, je pense, c'est dimanche, qui dit « notre droit s'arrête là où la blessure de quelqu'un d'autre ouais. commence ». C'est excessivement dangereux
oui,
comme parole.
Oui, oui. Tu sais, en gros, pour paraphraser, ben si tu fais de la peine à quelqu'un, ça devient automatiquement quelque chose qu'on devrait censurer, un commentaire qui est de la diffamation. Ben peut-être pas non plus, tu sais.
Ben non, parce que comment qu'on veut avancer dans un état de droit si chaque individu a sa propre loi qui le protège? C'est ça qui est difficile avec cette opinion-là. Alors moi, j'ai aucun problème en matière de liberté d'expression avec les trois exemples qu'on a nommés aujourd'hui. Ça, ce sont des règles claires. L'ordre professionnel, tu dois faire preuve de modération. Si tu vas à l'encontre des intérêts de ton employeur, ça aussi, tu peux être sanctionné. Si tu fais de la diffamation, tu peux être sanctionné. Mais quand on va plus loin que ça et qu'on dit qu'à partir du moment où quelqu'un se sent victimisé par un propos, automatiquement, le droit à la liberté d'expression s'arrête. C'est là où je trouve qu'on est sur vraiment une pente descendante. Et ça rend la tâche des employeurs beaucoup plus difficile aussi, oui. notamment en matière d'harcèlement psychologique. Donc, quelqu'un qui se sent victime d'une blague, normalement, le critère, si on regarde si objectivement la blague est de nature à blesser la personne, mais si on prend un critère que c'est la sensibilité qui prime, vraiment, pour les employeurs, ça va être très difficile de gérer les conflits entre collègues si c'est le nouveau critère qui est adopté. Et ça semble être de plus en plus entériné par le gouvernement actuel. On l'a vu avec le recteur de l'Université d'Ottawa aussi qui a pris la même position. J'espère que c'est pas ça, vers ça qu'on s'en va là, pour déterminer c'est quoi le droit à la liberté d'expression.
Oui, t'as raison, parce que le niveau de sensibilité est tellement variable d'une personne à l'autre, ça deviendrait ingérable. Très intéressant, puis je suis convaincu qu'on va s'en reparler bientôt, Philippe. Merci beaucoup, bonne semaine.
Bonne semaine, merci.
Salut.